Merci beaucoup de cette invitation. Je vais aujourd'hui m'attacher à développer certains éléments concernant la participation politique en ligne. Et je m'excuserai en conclusion, mais je pense que Dominique rebondira dessus sur les éléments manquants de cette espèce d'état de l'art que j'essaye de faire, puisque j'ai quand même un parti pris qui était dans la rédaction de cet article qui a été publié dans le numéro 1 de la revue Participation, qui était d'essayer de construire des ponts entre des disciplines. Et c'est pour cela qu'il y a certains éléments, certains courants de recherche qui seront moins évoqués, puisque je vais essayer de construire et de montrer les relations qui peuvent être extrêmement fructueuses entre des disciplines dont on n'a pas encore beaucoup parlé depuis ce matin, qui sont les cultural studies, les media studies et la communication politique, et de montrer combien ces différentes littératures peuvent enrichir notre conception et notre appréhension de ce que c'est que la participation, et en particulier la participation politique. Voilà. Donc il est aujourd'hui incontestable que l'utilisation massive d'Internet, le développement des réseaux sociaux et la généralisation des pratiques d'échange de pair à pair et l'appropriation créative du web transforment durablement le rapport entre les citoyens et les élus et participent au renouvellement des formes de la médiation politique. Est-ce à dire pour autant que cette transformation est claire et qu'elle permette un réel approfondissement de la démocratie, l'implémentation des outils techniques ayant une valeur de dispositif de suppléance perceptive, de suppléance démocratique, rien n'est moins sûr. Les choses ne sont pas si claires et la recherche en ce domaine tend aujourd'hui largement à dépasser ce type de considération et plutôt que d'évaluer l'impact des technologies sur la démocratie, sur la participation, sur la représentation, sur la mobilisation, qui est une perspective relativement déterministe, eh bien la recherche s'attache aujourd'hui davantage à penser ce que la participation politique en ligne nous dit sur la culture politique en général et sur la participation, la mobilisation et la citoyenneté en particulier. Je propose donc de revisiter le concept ou la notion de participation à l'aune des développements récents d'une littérature qui s'est penché sur ce que l'on appelle aujourd'hui la culture numérique, concept, alors je ne sais pas si on peut encore le qualifier de concept, en tout cas c'est une notion, qui émerge dans le domaine des cultural studies, des media studies et de la communication politique, et ce, de façon plus ou moins éclatée, dans des revues qui sont distinctes et qui entrent encore en peu aujourd'hui en discussion les uns avec les autres parce que c'est vrai qu'ils relèvent de champs disciplinaires encore bien distincts. Le concept de culture numérique, dont les contours se dessinent encore aujourd'hui de façon assez contestable et discutable, veut prendre en considération notamment des pratiques participatives émergentes dans l'espace public et dont la dimension politique reste parfois ambiguë, mais qui révèle de la part des citoyens une volonté d'expression sur les affaires publiques dont il est difficile d'ignorer les multiples manifestations. Je vais donc me focaliser sur cette dimension de la participation, sans chercher par ailleurs à faire le point sur l'ensemble des travaux touchant aux activités politiques en ligne, qui sont extrêmement nombreux, qu'elles s'intéressent aux déterminants de la participation, qu'est-ce qui motive ou qui permet la mobilisation des individus, aux effets des contraintes sociotechniques sur l'activité participative, ou encore, quelque chose qui m'a beaucoup intéressée récemment, sur la qualité délibérative des formes de la participation en ligne au regard de ce qui se produit hors ligne. Toutefois, en m'interrogeant sur les formes contemporaines de la culture numérique, je vous inviterai à porter un autre regard sur les publics participants et donc à reconsidérer les modalités et les contraintes qui peuvent peser sur la participation. Alors, qu'est-ce donc que la culture numérique ? Un ensemble de travaux anglo-saxons qui s'inscrivent dans le champ des cultural studies se sont particulièrement penchés sur l'activité de création de contenu en ligne qui se développe de façon très importante depuis l'avènement de l'Internet grand public et plus précisément depuis que les applications et les fichiers numériques présentent des qualités d'interopérabilité autorisant la manipulation des contenus et leur transfert par leurs utilisateurs de telle façon qu'ils puissent en approprier la source et la recombiner selon leurs désirs. C'est ce qu'on appelle communément le Web 2.0. Ces travaux sont encore peu traduits en français et insistent sur la congruence entre le Web 2.0 et deux autres éléments fondamentaux d'ordre plus sociologique et économique qu'on a un petit peu abordé ce matin, ces trois facteurs combinés contribuant à l'émergence de cette nouvelle forme de culture numérique. Alors il y a d'une part l'avènement de ce que Beck et Giddens qualifient de modernité réflexive, c'est-à-dire, en très gros, parce que je ne peux pas trop rentrer dans les détails, l'aptitude des individus à se détacher des déterminants sociaux, familiaux, traditionnels pour devenir des acteurs dans la construction de leur propre identité à travers notamment un réseau relationnel qui s'enrichit sur Internet. Il y a d'autres aspects de la modernité réflexive, mais en tout cas, c'est celle-là que je voudrais retenir. Deuxièmement, un nouveau modèle économique émergent d'innovation ascendante qui a été bien décrit par les travaux de Von Hippel notamment, et qui repose sur la mise en réseau et l'agrégation des données et des contenus numériques et propose des produits et des services customisés dont Amazon ou Facebook constituent des exemples emblématiques. Ce mouvement d'innovation ascendante caractérise, selon Yann Moulier-Boutan, qui en a beaucoup parlé dans ses travaux récents, une étape nouvelle du capitalisme dit cognitif qui repose sur la captation par le marché de l'activité individuelle en ligne et qui exploite commercialement les traces qui sont laissées en ligne par les utilisateurs du web, quels qu'ils soient. Ces trois facteurs, modernité réflexive, Web 2.0 et innovation ascendante, permettent d'appréhender pour de nombreux auteurs toute une série de pratiques esthétiques et artistiques, des romans, nouveaux romans, des fictions en ligne, des documentaires interactifs, par exemple. Des pratiques plus sociales, là où on connaît bien le développement des réseaux sociaux, des blogs, des sites de fans, etc. Et économiques, là je pense à la nouvelle économie, politique, sur lequel je vais revenir. En tout cas, toutes ces pratiques suffisamment conséquentes pour ne pas être catégorisées ou ramenées à une simple expression d'une contre-culture ou d'une culture alternative, dans le sens de contre-public de Nancy Fraser. C'est en particulier Robert Jenkins qui est un des premiers à percevoir les implications politiques de ces formes d'expression individuelle et collective, qui articulent vraiment les deux en réseau, en montrant qu'ils en viennent progressivement à concurrencer les lieux et les formes traditionnelles de l'activité politique et traduisent de nouvelles formes d'engagement plus distanciées et souvent critiques du système politique. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a toujours pas dit ce que c'était que la culture numérique. On est bien d'accord. De fait, on lui a d'abord donné pas mal de noms différents. Preuve que la communauté scientifique était à la recherche d'une espèce de dénomination stable pour caractériser un phénomène d'abord considéré comme émergent. On a parlé de cyberculture. On doit cette expression à Pierre Lévy. D'information culture. Ça, on doit ça à Manovitch. Ou encore, plus récemment, de remix culture, et ça, ce sont les travaux de Laurence Lessig, ou encore de convergence culture, que l'on doit à Robert Jenkins, à Henry Jenkins, dont je vous ai mis la citation sur la diapositive. Toutes ces dénominations cherchent à capter des dimensions différentes des pratiques observées à travers des études de cas, très nombreuses études de cas, sur les jeux vidéo, sur les mangas, sur les fans ou sur les séries télé. Et qu'est-ce qu'on voit à travers toutes ces pratiques? Une intense production de contenu par des amateurs. Production audio, vidéo, photo, partagée en ligne, taguée, remixée, qui modifie en profondeur la conception de l'audience et la conception que l'on a du public, en particulier dans les sciences de l'information et de la communication. Cette intense circulation des contenus médiatiques d'un dispositif à l'autre, du cinéma, à la télé, à la radio, via des jeux, tout ça circulant, du fait de l'interopérabilité des applications et de la transférabilité des fichiers numériques. Donc cette intense circulation des contenus traduit une affirmation des publics vis-à-vis des producteurs, dans le domaine de la musique, dans le domaine cinématographique et des images d'une façon générale, et qui, en tout cas, constitue un défi à ce que c'est que la notion d'auteur ou de droit d'auteur. Vous en avez entendu parler. Donc, cette affirmation des publics vis-à-vis des producteurs dans le sens d'une appropriation des contenus et d'une revendication de ce que leur avis soit pris en compte en tant que spectateur, mais aussi en tant que consommateur. Hein, ici, il y a une dimension économique qui joue un rôle déterminant dans la production culturelle. Tout ceci traduit un ensemble de valeurs qui dépassent la simple technophilie pour exprimer cette volonté de se dire soi-même à travers la critique de son paysage socio-culturel, de son « mediascape », pour reprendre l'expression, en tout cas la notion d'Apadurai. En ce sens, la culture numérique veut rendre compte de la façon dont l'environnement socio-technique et économique contribue à l'émergence de valeurs, en particulier participatives, qui se traduisent dans une série de pratiques en ligne, mais aussi hors ligne. On doit en particulier à Deuze d'avoir été plus opérationnel pour définir la culture numérique dans ses études sur l'évolution des formes du journalisme. Il en retient trois dimensions. D'une part, la remédiation, ce qu'on appelle la remédiation, qui est en fait un composite sémiotique entre anciens et nouveaux médias. Seconde dimension, le bricolage, c'est-à-dire la création d'objets nouveaux à partir d'objets existants, de matériaux existants. Et troisièmement, ce qui va nous retenir notre attention, la participation. Et c'est en constatant que l'activité communicationnelle des individus en tant que producteurs de contenu et consommateurs de médias se traduit par une prolifique production culturelle que des auteurs comme Deuze, Jenkins ou Hatton établissent un lien entre les réseaux de sociabilité qui sont tissés par les internautes et les formes d'expression politique que ces réseaux autorisent, celles-ci débordant du web pour affecter plus largement les comportements politiques des acteurs. Ces nouvelles productions culturelles peuvent en effet, selon ces auteurs, être lues comme des contre-exemples à la position de Putnam sur la... Ah, analyse de virus terminée. Ah ben ça tombe bien, je ne suis pas vérolée. Alors, ok... Et on redémarre. Voilà. Donc, ces productions culturelles sont des contre-exemples à la position de Putnam sur la désagrégation des communautés traditionnelles et ses conséquences sur l'engagement politique des individus. Et en ce sens, c'est très intéressant de voir que la recherche sur les cultural studies s'est beaucoup intéressée à la querelle des politistes consécutives à la sortie du livre de Putnam, Bowling Alone, et de Hibbing et Fitzmaurice, Stealth Democracy. Et ces auteurs qui affirment que, plus encore qu'une éclipse du public à la Lippmann, c'est sa disparition que l'on constate aujourd'hui. Prenant appui sur les travaux de Pippa Norris, qui propose de sortir d'une définition étriquée de la participation politique pour envisager plus largement toutes les formes d'activisme politique, il propose de voir dans les multiples formes de production de contenu un autre format participatif qui dépasse le militantisme classique, antérieur bien sûr à l'Internet. En ce sens, la participation au cœur de la culture numérique devient une composante essentielle de toutes les formes de la médiation dans la société numérique. Qu'il s'agisse du journalisme au cœur des industries culturelles ou de l'intervention artistique et citoyenne, tout cela impose l'invention de nouveaux modèles économiques, juridiques et éditoriaux. Tout se passe comme si la diffusion des technologies numériques d'un espace à l'autre s'accompagne de la diffusion des valeurs de remédiation, de bricolage et de participation qui lui sont attachées dans une perspective relativement latourienne. Avec la notion de culture numérique, une partie de la recherche s'attache à décrire les pratiques culturelles quotidiennes et triviales de consommation des médias, comme s'inscrivant dans un contexte culturel nouveau, marqué par une hyper-sociabilité et une activité de production intense. Ceci se traduit par une propension accrue à participer et à s'engager dans des réseaux, qu'ils soient en ligne ou hors ligne d'ailleurs. Les conséquences politiques de cette diffusion de la culture numérique sont analysées par de nombreux auteurs, qui soulignent en général combien les démocraties actuelles, dont les institutions représentatives reposent sur des modèles communicationnels hiérarchisés, centralisé et largement dépendant des médias mainstream, ne sont pas en mesure de répondre aux demandes croissantes des citoyens à l'ère numérique, dont les modalités d'expression et de créativité sont sans commune mesure avec la place qui leur est accordée au sein même de ces institutions. Ces travaux mettent en évidence que des espaces mettent en évidence que la politique s'étend désormais au-delà des arènes traditionnelles pour investir des espaces virtuels où des propos politiques peuvent prendre la forme d'argumentation tout en recourant à des formats sémiotiques extrêmement divers. Là-dessus, trois courants différents insistent sur les défaillances du système représentatif classique à capter cette parole citoyenne exprimant des revendications normatives à l'aide des dispositifs numériques. Et ce sont ces trois courants que je vais rapidement aborder maintenant. Donc il y en a trois, le courant contre-hégémonique, courant expressiviste et courant post-dialogique. La dénomination de ces courants ne m'étant bien entendu pas complètement due, je suis plutôt... J'ai plutôt joué un rôle dans la dénomination du courant post-dialogique, mais les deux autres sont relativement plus structurés. Notamment le courant activiste contre-hégémonique, et cette dénomination c'est bien parce qu'on la doit en particulier à Dominique Cardon et à Fabien Grandjean, dénonce les formes de l'emprise médiatique issues d'abord de la colonisation, puis de la concentration capitalistique entre les mains de grands conglomérats. Les médias, dans ce cadre-là, en tout cas conçus comme ça, produisent une forme de domination symbolique qui s'étend à l'ensemble de la production culturelle et artistique et scientifique dans les années 80, à mesure que les politiques de libéralisation des marchés se déploient aux USA et en Europe, on en a parlé ce matin. Dans ce cadre-là, des chercheurs en sciences humaines et sociales, comme Armand Matelard notamment, s'engagent publiquement contre cette forme de violence qui prend appui sur les médias pour nier toute forme d'expression politique alternative à celle de la libéralisation des marchés. C'est ce qu'il a fait dans ses travaux sur le Chili notamment. De même, de façon différente, Noam Chomsky et Pierre Bourdieu mettent en évidence des formes de collusion entre les univers politiques et journalistiques et invitent à une libération de la parole des classes dominées. On sait que le courant altermondialiste a beaucoup recouru au TIC, hein. Il lui a permis de se structurer, de prendre de l'ampleur. Il y a dessus des nombreux travaux, les travaux d'Éric Georges, les travaux de Dominique Cardon et Fabien Grandjean, les travaux d'Anne-Marie Gingras au Canada. Ce qui nous intéresse plus ici est la manière dont l'utilisation d'Internet a permis la diffusion de ces pratiques culturelles et variées qui s'affirment comme des formes de revendication politique. Elle leur a donné une très vaste audience. Downing, notamment, parle à leur propos de « radical alternative media », des pratiques participatives tous azimuts dans l'espace public. Là, on parle de théâtre de rue, des tags, des graffitis, des formes de danse, des formes de musique, hein, qui veulent s'opposer au discours libéral ambiant et affirmer les spécificités culturelles dans certaines zones géographiques, en particulier en Amérique du Sud. Mais là, on va avoir les premiers travaux sur le rôle d'Internet dans la diffusion de certains types de musique, notamment de rap, dans les pays arabes ou dans les pays d'Afrique du Nord, hein, donc les premières études sont en train de sortir. En ce qui concerne... J'ai un retard. Bon, zut. En ce qui concerne le courant expressiviste, qui est popularisé et affiné en France par Laurent Salard, c'est un courant parallèle au premier. Hein. Et ce courant cherche moins à mettre en évidence les activités de résistance des populations via Internet qu'à souligner comment la culture numérique s'inscrit dans un mouvement plus large d'individualisation et de réflexivité des sociétés modernes. À partir d'une relecture des travaux de Beck, Giddens et Lash, les auteurs comme Jenkins, dont j'ai déjà parlé, et Ito, montrent que les pratiques de production de contenu en ligne permettent aux individus de recomposer leur identité personnelle, l'activité expressive étant dès lors autant une activité critique qu'une modalité de production identitaire. L'incapacitation politique ici provient de leur aptitude à se libérer des contraintes imposées par les monopoles mis en place par les industries culturelles. les citoyens bricoleurs du net affirment à travers ce que Laurence Allard et Olivier Blondeau nomment des objets technopolitiques, des revendications normatives, et explorent à travers une activité artistico-politique de nouvelles formes de militantisme, d'ailleurs pas toujours très organisé. Ici, l'engagement individuel et collectif qui se dessine à travers ces technologies de soi, expression que l'on doit à Foucault, révèle une constitution distribuée de la subjectivité qui profite des technologies du partage, de la syndication notamment, des tags, pour revendiquer un accès aux ressources de la symbolisation et de la normativité sociale, ce que ne permettent pas facilement les médias traditionnels. Il s'agit donc bien de revendications participatives dans le sens de la conquête d'un approfondissement de la démocratie. Je préfère parler d'approfondissement de la démocratie plutôt que de démocratisation de la démocratie, même si le sens est à peu près le même. Donc il y a une revendication participative qui, tout en critiquant le monopole des médias dans la production du sens, ne va pas jusqu'à leur condamnation globale, comme une superstructure au sein des sociétés capitalistes. La critique des médias est plutôt une conséquence du développement des pratiques expressives individuelles qu'une motivation à leur développement. Aux États-Unis, Edwards notamment montre bien dans ses travaux sur la dernière présidentielle américaine que les mash-up vidéo critiquant en particulier Hillary Clinton servent d'abord à exprimer des points de vue, à contester un programme électoral et à argumenter sur le fond sans remettre en cause fondamentalement l'existence de la machine électorale qui fonctionne comme un outil de propagande. En tout cas, c'est très implicite. Et je vais terminer sur le courant post-dialogique. J'ai essayé de rassembler sous cette bannière toute une série de travaux de chercheurs en Media Studies et Political Communication qui entrent en discussion critique avec une partie du courant réaliste, ce qu'on appelait le courant réaliste en sciences politiques, qui propose d'évaluer les effets de l'Internet sur la participation et qui constate bien sûr que ces effets sont limités. À chaque fois qu'on étudie les effets de l'Internet sur, on s'aperçoit forcément que ces effets sont limités. Et cette approche-là est une perspective relativement techniciste que développe ce courant réaliste, qui envisage la technologie, d'ailleurs ici essentiellement Internet, donc c'est assez réducteur, comme une entité extérieure aux pratiques qu'elle viendrait impacter de façon radicale. Donc tout se passe comme si on cherchait... comme si ces auteurs réalistes cherchaient dans la technologie le moyen de mettre en œuvre les critères de la délibération de type habermassien, ce qui sur le terrain évidemment ne se vérifie jamais. En conséquence de quoi, les réalistes, en jetant le bébé avec l'eau du bain, ont conclu qu'en ce qui concerne la politique, l'Internet ne modifie rien sinon à la marge, et c'est donc bien « politics as usual ». Pour certains auteurs, en particulier qui travaillent dans les « media studies », comme Scott Wright, Stephen Colmer ou Jay Blumler, ou encore même Todd Graham, ce sont des travaux plus récents, il faut sortir des espaces publics traditionnels pour observer l'évolution des pratiques participatives au lieu de se contenter de chercher la révolution dialogique dans les lieux d'expression des élites. L'idée générale qui est empruntée ici à Lance Bennett et à Giddens est de dire qu'il convient d'envisager les relations entre individus et politiques comme médiés par d'autres rôles sociaux que celui de citoyen. Autrement dit, on peut observer des pratiques d'expression politique ailleurs que dans les espaces réservés à l'exercice de la citoyenneté. Et ici, l'Internet, parce qu'il favorise de nombreuses activités de création de contenu, peut fournir des lieux de discussion susceptibles d'être envisagés comme des arènes de participation et d'engagement civique nouveaux. L'entrée en politique, en ce sens, peut se faire à travers des rôles sociaux divers, qui a priori n'ont qu'un lointain rapport avec le politique. Et c'est ce que ces auteurs vont chercher à traquer à travers une série d'études de cas. Cette conception invite à élargir l'espace de la délibération aux discussions plus informelles, dans un contenu plus trivial et sans lien direct avec la décision ou l'action publique, un peu comme peut le faire Simon Chambers, par exemple. Et des auteurs comme Lisbeth Van Zoenen ou Todd Graham ou Stephen Coleman se penchent ainsi sur des émissions de télé-réalité, sur les forums en ligne, sur les chats, pour montrer comment se constituent des préférences normatives et des prises de position sur des sujets politiques parfois sensibles, comme l'organisation du système éducatif ou du système de santé. En participant de la sorte à des discussions politiques, les individus ont, eux, la sensation d'accomplir un acte citoyen, même s'il n'est pas du tout qualifié comme tel par les politistes, en particulier parce qu'il se déploie dans des espaces extrêmement triviaux. Hein. Je ne sais pas, comme les forums de discussion des mères de famille, genre de trucs. Bon, tout le monde sait que les mères de famille ne font pas de politique, c'est bien connu. On peut bien sûr être sceptique hein, sur les effets plus macro-politiques de ces discussions dans les espaces que Peter Dahlgren qualifie de proto-politiques. On peut être sceptique sur les effets, sur les effets macro-politiques tant sur la décision que sur la conception même de la citoyenneté. Et là, c'est sûr qu'un important travail de conceptualisation reste à faire. Eh bien, ça tombe bien. C'est ma dernière diapo. En conclusion, il y a des limites évidentes à cette présentation, hein, et c'est pas qu'un exercice de rhétorique qui vise à justifier mes propres limites intellectuelles. C'est aussi, évidemment, je suis obligée de faire des raccourcis peut-être théoriques un peu critiquables ou discutables. Pour autant, je pense qu'on a intérêt à faire dialoguer les disciplines entre elles et qu'il n'est pas possible d'appréhender une innovation technologique dans un temps court, dans la mesure où je pense, dans une approche toute simondonienne, que les individus reconfigurent leurs pratiques à l'aune des dispositifs sociotechniques qu'ils ont à leur disposition, en dépassant sans cesse les intentions initiales des concepteurs, comme a pu nous l'apprendre la sociologie des sciences et la sociologie de l'innovation. La question n'est donc pas « est-ce que l'Internet change la participation ?» mais « comment la participation politique se reconfigure dans un nouveau milieu, dans un environnement médiatique qui se restructure ?» Et pour y répondre, il convient à mon avis autant de s'interroger sur les pratiques participatives traditionnelles qui se voient dénaturalisées à l'aune des nouvelles pratiques que sur les modes de médiation qui les ont rendues possibles. En ce sens, les disciplines ont à apprendre les unes des autres et doivent entamer des discussions sérieuses. Peut-on parler de façon extensive, finalement, de participation ou de délibération ? Parce que la participation se dilue. De même que la délibération. Peut-on considérer un dispositif technique comme une entité extérieure, bref, comme un outil qui modifierait brutalement des pratiques ? Un outil avec lequel on fera à peu près ce qu'on veut, le bien, le mal, selon l'utilisateur, sans penser que ce dernier appréhende in fine la réalité différemment une fois qu'il s'en est saisi. Reste ici encore ouvert toute une série de questionnements que je n'ai pas pu aborder. Celle des déterminants de la participation dont Verba, Scholzmann et Brady avaient dessiné les contours autour du triptyque motivation, compétence et mobilisation, ceci étant très nettement interrogé par les travaux des Media Studies récemment. À partir de ces discussions interdisciplinaires, on peut penser que progressivement, notre appréhension des formes que revêt la participation politique dans les sociétés modernes va s'élargir, quitte à nous obliger à redéfinir dans quelle mesure le lien à la décision et à l'action publique constitue une composante indispensable de sa définition. Je vous remercie.